Europe 1. Au début de l'année 1934, un scandale financier a mis en péril la Troisième République. Le mondain Serge Alexandre Stavisky meurt dans des conditions suspectes au moment de son arrestation par la police. Ces escroqueries sont alors révélées, créant l'indignation de l'opinion publique. Les Français sont écœurés par l'impunité de cet homme. Ils descendent dans la rue et demandent justice. Des têtes devront tomber dans les plus hauts sommets de l'État. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. L'affaire Stavisky, scandale au sommet de l'État. Nous sommes à Chamonix le 8 janvier 1934. Il est à peine 16h, mais il fait déjà sombre. Malgré le jour déclinant, le couple Farjas marche dans la neige, les bras chargés de victuailles. À cette heure-ci, ils ne devraient croiser personne, et pourtant ils distinguent des silhouettes qui entourent leur chalet, le vieux logis. Que se passe-t-il ? Inquiets, ils décident de rebrousser chemin. À l'intérieur du chalet, un homme seul voit lui aussi les silhouettes par la fente de ses volets clos. Il reconnaît aussitôt des gendarmes et des policiers. Mais pour lui, il est déjà trop tard pour fuir. L'homme saisit son arme, tandis qu'une sueur glacée coule dans son dos. Il est fait comme un rat, lui, Alexandre Stavisky, riche à millions, proche des hommes d'affaires les plus influents. Il entend plusieurs voix d'hommes, puis des coups sur la porte de sa chambre. On s'acharne sur la serrure. Stavisky se met à trembler pour la première fois de sa vie. D'une voix blanche, il parvient à articuler. « Qui va là ?» De l'autre côté de la porte, c'est l'euphorie. Enfin, Stavisky donne signe de vie. Le commissaire charpentier lance le traditionnel « Police, ouvrez, vous êtes cernés !» Mais il a à peine fermé la bouche qu'un coup de feu retentit. Les policiers et les gendarmes s'immobilisent. Qui a tiré ? Vite, ils se mettent à l'abri. C'est le suspect qui leur tire dessus à travers la porte. Recroquevillé dans l'ombre, Charpentier intime à Stavisky de se rendre. Aucune réponse. Les policiers s'approchent de la porte et l'examinent. Aucun impact de balle. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre close ? Le 15 décembre 1933, Maxime Sadron, contrôleur des finances pour le Trésor public, se présente au Crédit municipal de Bayonne pour vérifier les comptes. Il ne s'est pas annoncé. Dans ce genre de visite, c'est en venant à l'improviste qu'on fait recette. Le Crédit municipal, c'est ma tante. Enfin, c'est aussi ce qu'on appelle le monde-piété. C'est un organisme qui, à l'origine, dès le 15e siècle en Italie, prête de l'argent aux gens momentanément dans le besoin. On y dépose des objets plus ou moins précieux et en échange, l'organisme accorde un prêt en argent. Les objets déposés sont mis en gage jusqu'à ce que le déposant revienne les chercher. Souvenez-vous de l'infâme Thénardier dans Les Misérables de Victor Hugo qui met en gage au monde-piété le trousseau de la pauvre petite Cosette contre de l'argent. Pour bien comprendre l'escroquerie que Maxime Sadron est sur le point de découvrir, il faut que je vous explique en quelques mots le fonctionnement du monde-piété. Pour obtenir l'argent liquide qu'il remet à ses clients, le monde-piété émet des bons de caisse. Ces bons sont remis à une banque qui fournit le cash. Mais un jour ou l'autre, il faut la rembourser. En cette journée du 15 décembre, le directeur du Crédit municipal de Bayonne est absent. Mais Maxime Sadron s'installe à son bureau et farfouille. Il aime bien fouiner, Maxime Sadron, surtout dans les établissements bancaires. Il y a toujours une ou deux manigances à découvrir. Les conséquences de ces découvertes du jour vont dépasser ses espérances et le faire entrer dans l'histoire. Il ne tarde pas à mettre la main sur un carnet d'émissions de bons. 6 sont signés en blanc. Un bon signé en blanc sous le coude d'un directeur d'établissement bancaire, c'est comme un chèque en blanc. C'est illégal. Et c'est exactement ce que cherche notre receveur des finances. Il met bons et registres dans sa sacoche et s'en va examiner ça de plus près dans son bureau. Ça ne prend pas longtemps. Quelques jours plus tard, Gustave Tissier, directeur du Crédit municipal de Bayonne, est arrêté. Il avoue sans tarder un détournement de 240 millions de francs, une belle somme. Emprisonné, Gustave Tissier ne veut pas plonger seul. Il met en cause Joseph Gara, le député-maire de Bayonne, le commanditaire du détournement d'après Tissier. Puis il implique un homme d'affaires célèbre dans la région qui entre aussitôt dans le collimateur de la police, le richissime Monsieur Alexandre. Il s'agit de Serge Alexandre Stavisky, et ce n'est pas un perdreau de l'année. Hein. 1m73, svelte, toujours rasé de près et gominé, c'est un homme d'affaires influent connu de tous. Il est à la tête de nombreuses sociétés. Il loge dans les beaux hôtels et mange dans les meilleurs restaurants. Il compte parmi ses relations, et même ses amis, un certain nombre de ministres et de parlementaires qui témoignent de son honorabilité. Oui, mais Monsieur Alexandre est aussi un type peu recommandable qui a amassé une petite fortune grâce à ses escroqueries. Il est, comme on dit, bien connu des services de police. Serge Alexandre Stavisky est né en 1886 en Russie. Il est arrivé en France en 1890 avec sa famille. Son père l'imagine médecin, mais lui préfère quitter l'école à 16 ans pour faire carrière dans le music-hall. Malheureusement, il n'a pas le talent nécessaire. Il quitte la scène sans pour autant reprendre ses études. Il aime le champagne, les cabarets, les femmes et la vie frivole qui va avec. Pour s'assurer un tel train de vie, il se met à voler son père, puis à traficoter, même en temps de guerre. Et ça marche, parce que pour la roublardise, il a un vrai talent. Après l'armistice, l'argent coule à flot. Stavisky est devenu un maître de l'escroquerie. Il prend soin de se fabriquer un réseau de protecteurs jusque dans la police et la justice. Mais en 1926, la chance tourne. Il est emprisonné pour détournement, 6 millions de francs tout de même. Quand il sort de prison, il reprend sa vie légère et continue les arnaques, impliquant souvent des organismes et des hommes haut placés. Il crée des entreprises par dizaines. Dans leur conseil d'administration, il place des hommes au-dessus de tout soupçon. Des conseillers d'État, des fonctionnaires de police. Lui, il reste dans l'ombre. Enfin, pas quand il s'agit de flamber. Il part en vacances à Biarritz avec sa femme, Arlette et leurs deux enfants. Il dilapide ses gains au casino et ses luxueuses voitures éblouissent tout le monde. Il profite de son séjour sur la côte basque pour monter son chef-d'œuvre, le Crédit Municipal de Bayonne, qu'il crée de toutes pièces avec l'aide de personnalités locales et d'influents amis parisiens. Tout le monde se rue sur les bons de Bayonne, jusqu'au ministre du Travail et du Commerce, qui incite les compagnies d'assurance à investir. Monsieur Alexandre est l'homme d'affaires le plus influent du moment. La famille Stavisky s'installe sur les Champs-Élysées, définitivement plus chic que Biarritz, vous en conviendrez. Sans doute y aurait-il passé le reste de sa vie sans Maxime Sadron. Les déclarations de Tissier et le casier judiciaire de Stavisky suffisent pour que le juge d'instruction chargé de l'affaire du Crédit Municipal de Bayonne lance un mandat d'arrêt contre l'escroc russe. Car bien sûr, celui-ci a disparu à l'annonce de l'arrestation de Tissier. Sur les conseils de son avocat, il s'est réfugié en Savoie avec un ami escroc comme lui. Dans un premier temps, il s'installe dans une villa à Servoz, puis à Chamonix, au Vieux Logis. C'est un chalet assez éloigné du centre, sans voisins proches, le type même du vieux chalet savoyard avec une façade moitié pierre, moitié bois. La vue sur l'aiguille du Midi, le Mont Blanc et les glaciers des Bossons et d'Argentière est superbe. Exactement ce qu'il faut à Monsieur Alexandre. Mais l'escroquerie de Bayonne prend de l'ampleur et Monsieur Alexandre se sent traqué. Il n'a pas tort. Sa photo est en une de tous les journaux et la police perquisitionne les sièges de toutes ces sociétés. Les escroqueries du beau mondain sont révélées et déjà on s'interroge. Comment cet homme a-t-il pu agir aussi longtemps en toute impunité? Il doit être protégé en haut lieu, très haut même. Début janvier 1934, trois policiers parisiens débarquent à Servoz. Il y a le commissaire Charpentier et les inspecteurs Le Gall et Girard. Ils se rendent dans la villa qu'on leur a indiquée, mais l'oiseau a quitté le nid. Ils enquêtent sur place, naviguant à l'aveugle sans beaucoup de succès. Ils savent que Stavisky est là, à Chamonix ou tout près. Mais où ? Alors qu'ils sont sur le point de plier bagages, un tuyau arrive de Paris. Stavisky s'est réfugié dans un chalet nommé le Vieux Logis. Les gendarmes commencent la surveillance. Peu avant 14h, le 8 janvier, le couple Farjas, qui vit avec Stavisky, quitte le Vieux Logis. Stavisky lui-même se replie dans sa chambre, tout volet clos, comme toujours quand il est seul. Il n'a pour tout mobilier qu'un vieux lit, une table, une chaise et une armoire. On est loin de l'hôtel Claridge des Champs-Élysées qu'il a hâte de retrouver. En attendant, il lit la presse pour savoir ce qu'on dit de lui. À ses côtés, il a posé son pistolet, dont il ne se sépare plus. Tout à coup, il dresse l'oreille. Il y a un bruit là, dehors. Stavisky s'assoit d'un bond, éteint la lumière et saisit son arme. Il entend des pas dans la neige qui longe le chalet. Plusieurs personnes, au moins quatre. Pas les Farjas, donc. Voilà qu'on frappe. Ce sont Charpentier, Legal et Girard. Ils sont accompagnés de Chatou, le propriétaire du chalet, dont ils font le tour pour trouver une entrée. Chatou repère une fenêtre restée ouverte. Il va chercher une échelle dans une remise, y grimpe et enjambe la fenêtre. Puis de l'intérieur, il ouvre la porte aux policiers. A priori, il n'y a personne dans le chalet, sauf que la porte d'une des deux chambres est fermée à clé de l'intérieur. Les trois policiers et le propriétaire regardent la porte en silence. Charpentier tripote nerveusement dans sa poche le mandat d'arrêt contre Stavisky, mais il n'enfonce pas la porte, une simple porte de bois, pour cueillir son suspect. Charpentier envoie ses acolytes inspecter le reste du chalet. En théorie, c'est très vite fait, puisqu'il ne reste que la cave et quelques mètres carrés. Mais Charpentier reste quand même 20 minutes seul devant la porte close. Ce qui se passe alors restera un mystère. Charpentier parlemente-t-il avec Stavisky? Lui demande-t-il de se rendre? De se suicider? On ne saura jamais. Quand ces hommes remontent de la cave, il en place un en faction devant la porte et part en compagnie d'un gendarme téléphoné à la Sûreté Générale. Il a besoin des conseils d'un de ses supérieurs. La conversation est courte. Sur le chemin du retour vers le chalet, Charpentier croise un journaliste et lui dit « Ça y est, on le saute !» Voilà qui intéresse au plus haut point le journaliste qui emboîte le pas aux forces de l'ordre. Quand le coup de feu retentit dans la chambre de Stavisky, policiers et gendarmes se jettent sur la porte pour l'enfoncer. Cette peine perdue, l'un d'eux a l'idée de passer par la terrasse et d'enfoncer le volet de la porte-fenêtre qui, elle, ne résiste pas à leur assaut. Le gal brise le carreau, passe la main par le trou et fait jouer la serrure. La porte-fenêtre s'ouvre. Dans la chambre, l'obscurité est totale. Il faut se méfier. Le type peut être tapi dans l'ombre pour les tirer comme des lapins. Ils attendent. Rien ne se passe. Un signe de tête de Charpentier et le gal entre, arme au poing. Il voit d'abord un pyjama sur le lit. Puis, il entend des halètements et un horrible gargouillis. Il avance vers le lit qui lui cache la moitié de la pièce. Sur le plancher, dans la pénombre, il distingue des pieds. Il fait le tour du lit et découvre le corps tremblant d'un homme qui tient encore une arme à la main. Son sang coule par un trou à la tempe. Devant ce corps agonisant, Charpentier ne sait pas quoi faire. Ce n'est décidément pas un homme d'action. Il a besoin que sa hiérarchie lui donne des ordres. Quand le docteur Jamin arrive sur place, il est trop tard. Stavisky est plongé dans un coma dont il ne sortira jamais. Il déplace quand même le corps et lui glisse un oreiller sous la tête. Le moribond n'arrivera à l'hôpital de Chamonix qu'après 18 heures. Et le lendemain, 9 janvier 1934, à 3h50 du matin, Stavisky meurt à l'hôpital sans qu'on ait pu l'opérer. La photo de son cadavre sanglant s'affiche en une des journaux à scandale. L'annonce de sa mort retentit comme un coup de tonnerre. Aussitôt, on soupçonne la police de l'avoir assassiné. Cet homme-là en savait trop. Il ne devait en aucun cas parler. Mais jusqu'à quel point en savait-il trop? Sur qui? Le gouvernement se débarrasse de Stavisky en le faisant abattre à Chamonix. La thèse officielle du suicide est battue en brèche par de nombreux témoignages contradictoires. Le gouvernement de Camille Chautemps, président du Conseil, est au début d'une crise politique sans précédent. Le scandale a d'importantes répercussions politiques lorsque l'opinion apprend les liens qui lient Stavisky à certains parlementaires en vue. Parce que Stavisky était juif, influent et escroc, l'extrême droite dénonce les compromissions de M. Alexandre et ses amitiés jusqu'au sommet de l'État qui lui permettaient de s'enrichir à millions. Ces révélations attisent la rancœur des Français qui descendent dans la rue. La presse dévoile les noms des relations de Stavisky dans la police, la justice et le monde politique. On remonte jusqu'au beau-frère du président du Conseil des ministres, Camille Chautemps. Les arrestations s'enchaînent et les manifestations prennent une ampleur sans précédent. Voilà que le garde des Sceaux démissionne, suivi le 27 janvier 1934 de Chautemps lui-même. Édouard Daladier, réputé pour son intégrité, lui succède. Aussitôt, il révoque Jean Chiappe, le préfet de police. Cette décision met le feu aux poudres car le préfet est un sympathisant d'extrême droite. Deladier doit alors faire face le 6 février 1934 à une manifestation qui prend un tour politique car les ligues d'extrême droite s'en emparent pour appuyer leurs revendications antiparlementaires. Elles montrent du doigt la compromission des hommes politiques qu'elles traitent de voleurs et d'assassins. L'Action française, rejointe par les Croix de Feu, accuse le gouvernement d'avoir fait traîner l'enquête. D'autres groupuscules proches du Parti communiste protestent contre les scandales financiers, mais également contre le refus du gouvernement d'augmenter les pensions des anciens combattants. La manifestation se transforme en émeute qui fait 16 morts et 600 blessés du côté des manifestants, 1600 du côté des policiers. Le lendemain, Édouard Daladier démissionne lui aussi. Le pouvoir est dans la rue. Gaston Doumergue, ancien président de la République, lui succède à son tour. Il doit faire face à une autre manifestation violente le 9 février. Elle fait 3 morts et plus de 500 blessés. Les manifestations se poursuivent jusqu'au 12 février, c'est la grève générale. La capitale est paralysée, mais le gouvernement Doumergue tient bon. L'affaire Stavisky se termine par un procès qui s'ouvre en janvier 1936 devant la cour d'assises de Paris, en l'absence du principal accusé, bien sûr. Il compte 250 témoins et 50 avocats pour 20 inculpés. 9 d'entre eux sont condamnés, dont 2 parlementaires, Gaston Bonnor, député de Paris, et Joseph Garat, député-maire de Bayonne. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.